Entre Loire et Loin. C'est le magazine du Gâtinais. C'est chaque samedi à 10h sur les ondes de C2L Radio, mais c'est aussi en vidéo sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, Entre Loire et Loin. Et pour ce numéro du 6 mars 2021, bonjour, bienvenue à tous. Nous entendrons l'interview d'un auteur montargois, Saïd Ourad, qui a sorti il y a quelques mois déjà son premier roman, Résilience inachevée. Il sera interrogé par Sandrine Manteau. Nous écouterons également François Bonneau, le président de la région Centre-Val-de-Loire, qui nous parlera de la marque de territoire « C'est au centre ». Nous irons également à la rencontre de Guillaume Hyacinthe, qui prépare activement la réouverture de la cueillette à la ferme maraîchère urbaine de Chalette, de la Fourche à la Fourchette. Nous irons également à la rencontre des femmes solidaires du Montargois, qui, à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, qui se déroulera le 8 mars, prépare toute la semaine prochaine des petites choses, avec comme point de, pour terminer là, la semaine, le samedi 13 mars, quelques rendez-vous à Montargis, donc on en reparlera tout à l'heure au cours de cette émission. Mais pour commencer ce numéro, Entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais, nous allons faire un tour du côté de Château-Renard, où Alphonse et Sandrine animent le collectif Territoire d'écriture, qui regroupe une vingtaine d'auteurs du Gâtinais. Mais ça sera juste après une première pause musicale.
C'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule.
C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier.
Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme,
la voiture qui s'en va.
Merci d'écouter Entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais sur les ondes de C2L. Tout de suite donc, comme annoncé en début d'émission, nous retrouvons Alphonse et Sandrine du côté de Château-Renard qui animent le collectif Territoire d'écriture qui regroupe une vingtaine d'auteurs du Gâtinais.
Ça fait combien de temps qu'on a créé Territoire d'écriture, rappelle-moi?
Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois.
6 mois.
Ouais. C'est parti donc d'une idée folle donc, autour d'un café. En disant, tiens, mais tu as vu, lui, un tel, il a écrit un livre, tiens, mais tu as vu, on sait si. Et à force de compter, on est arrivé donc à une demi-douzaine d'écrivains.
Non, une bonne douzaine.
Ouais, une bonne douzaine d'écrivains sur le territoire. Et on s'est dit pourquoi, en plus on était donc proche donc, de confinement, pas confinement, on s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour nos amis auteurs. Et on avait pensé au départ donc, à faire, en fait, comme classiquement, un salon des livres d'auteurs locaux et qui n'a pas pu se faire à cause bon, des événements d'aujourd'hui. Et ça nous a un petit peu fait baisser les bras. Et du coup, on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire?
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, c'était tout simple. L'énergie, elle est venue en les réunissant un dimanche matin. Ouais. Ils sont arrivés, ils étaient une dizaine. Ouais. Ils sont arrivés de partout. Il y en avait même donc. C'est majoritairement les gens de notre territoire ici, Curtignan et Castelrenardais. Et puis tous les copains qui sont cooptés d'une façon ou d'une autre. Hein. On va pas aller jusqu'en Seine-et-Marne parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés de partout.
Ils ont demandé. Donc on a bien fait partie de votre collectif. Et on leur dit que c'était un peu compliqué. Quoi. On peut pas faire un collectif territoire d'écriture de l'Est du Lorrain, et puis faire venir donc d'autres auteurs. Sauf que sur la banderole, on a marqué donc hashtag auteur d'ici et d'ailleurs. Du coup, ça permet d'ouvrir la culture au-delà donc de nos territoires, parce qu'évidemment, l'écriture, elle n'est pas forcément cantonnée dans le Gâtinais. Quoi. Elle est issue du Gâtinais, parce que ce sont des femmes et des hommes qui écrivent d'ici, et je pense que c'est peut-être l'atmosphère, l'ambiance.
Mais tout de suite, il y a une ambiance
bon
de
vivre,
folie.
Voilà, ouais.
C'est drôle parce que il y a évidemment la rencontre avec le public qu'on favorise, mais il y a aussi la rencontre entre eux qui a été très riche et très gaie et comme s'ils avaient l'écriture, c'est et même la publication du bouquin. Normalement, c'est un destin individuel, une aventure où t'es tout seul. Et là, soudain, ils se retrouvaient entre eux et ils discutaient de ce qu'ils avaient fait. Ils ouvraient les bouquins des uns des autres. Et bon, tout le monde n'a pas fonctionné là-dedans, mais la plupart.
Si, la plupart. Et c'était très généreux. Voilà, je crois qu'il faut retenir un truc, c'était que l'écriture donne, c'est un don de soi. Et cette répercussion là, elle a été physique dès qu'on les a mis ensemble. Il y a une alchimie qui nous a tous séduits. Et on leur a dit, mais il faut qu'on continue à faire quelque chose.
Et surtout que là, finalement, en quelques mois, il y a quand même eu. C'est combien de personnes on parle ?
Une vingtaine.
Il y a beaucoup de gens qui ont sorti des bouquins pendant le confinement.
Voilà, c'est ça. C'est là où on s'est dit, mais c'est incroyable le nombre d'auteurs sur ce territoire. Et quand, c'est quand on a fait de la comptabilité, on s'est dit, mais merde, ils sont nombreux, quoi. Et encore là-dessus, on voulait associer avec nous, donc. Jean-Michel Cazot, donc des éditions de l'Écluse, parce que lui, il a également donc, beaucoup d'auteurs locaux, mais on n'a pas pu, quoi, on n'a pas eu le temps, quoi, parce qu'on a été tellement submergé par déjà notre propre demande, et puis ça nous a dit, ouais, il faut faire quelque chose. Du coup, on a réfléchi, et puis est né donc ce mot, territoire, qui est naturel, et puis on a dit d'abord d'écrivain, puis on a un peu cherché, et puis territoire d'écriture s'est imposé naturellement.
Et on a mis écriture avec un S.
Avec un S, ouais.
Ouais. Peut-être pour tous les types de bouquins. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a un panel, évidemment, de bouquins tous très différents les uns des autres. Et puis peut-être aussi, surtout, pour ouvrir à tout le reste. Ouais. Pour ouvrir à la poésie,
Voilà. Il y a beaucoup de polars. Il y a également, donc, sur la culture donc, du terroir, on va dire ça comme ça, des livres donc, sur... Château-Renard, qui Château-Renard, ses environs, et nous, ça nous plaît bien, quoi, parce qu'en fait, on est vraiment donc au cœur de nos racines, et c'est ce qui nous ressemble.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme action, en l'occurrence ?
Alors, du coup, dès qu'on a eu en fait une lueur d'espoir, donc Sandrine s'est jetée dessus. On a appelé le maire de Triguère, donc Patrick Moreau, qui est un copain,
et qui est un type dynamique, qui n'a pas froid.
Depuis en fait mars donc 2019. Il a créé donc un marché nocturne, semi-nocturne. Et puis on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne nous inviterais pas à venir ? Et il a dit, mais venez, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on a claqué des deux doigts. Et on s'est tous mis donc au travail. Et
ça, c'était juste avant Noël.
Juste avant Noël, où tout le monde déprimé, tout le monde angoissé, tout est annulé, donc toutes les manifs étaient annulées les unes après les autres. Et puis nous, on était là. Et on a dit, ben, on va y aller. Et du coup, on a acheté des... on a beaucoup travaillé donc l'information sur Facebook, on a créé le Facebook bien sûr, ça c'est le premier point de départ, on a fait des photos, on a réuni donc on les a réunis et puis on a dit voilà deux dates, donc qui vient, qui vient pas.
Tout le monde a dit oui,
ok, alors peut-être pas pour les deux mais au moins pour l'un et pour certains pour l'autre, et du coup ça fait le buzz, quoi. Et c'est pas compliqué, la page Facebook quand je l'ai créée donc territoire d'écriture. En moins d'une semaine, on a dépassé les 10 000 vues. Quoi. C'est un truc de fou, j'avais jamais eu ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe ?
Ouais. Voilà. Parce que là, en plus, c'est chaque auteur qui, du coup, était Ouais. Content d'avoir l'occasion, mmh. l'opportunité de présenter ce qu'ils ont partagé à tout va.
À tel point que nous, on est resté, on a été submergé par notre succès parce que même FR3 donc m'appelle et me dit voilà.
France 3.
Ouais, France 3. Je suis désolé. Donc France 3 donc m'appelle et me dit voilà, on serait intéressé pour faire donc un reportage sur ce que vous avez fait, etc., etc. J'ai écouté, venez, il n'y a pas de problème, voilà. Et donc ils sont venus. Du coup, on a eu la chance d'avoir eu deux fois deux reportages sur FR3.
Alors après, il fallait savoir qu'est-ce qu'on fait d'autre par la suite. Et puis, il y avait les nuits de la lecture. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Tu connaissais, toi ?
Moi, je connaissais, oui. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en plein, si ce n'est confinement ou semi-confinement, et c'était quoi ? C'était le couvre-feu
c'était
et compagnie.
C'était le couvre-feu.
Enfin, bref. Donc, on va enregistrer, filmer des extraits, des bouquins de tout
alors,
le monde.
C'est, ouais, c'est, on s'est parti sur le principe de résilience culturelle. Parce que j'ai trouvé que la Comédie française donc, avait fait de la résilience. Ils avaient initié en fait toutes ces soirées donc, où tu racontes des histoires. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai dit, Sandrine, viens, on fait ça. Et du coup, on a appelé notre ami Jean-Philippe. Et on a commencé donc en fait à faire les vidéos pour créer donc la lecture.
Toutes ces vidéos-là, on peut toujours les voir sur votre page Facebook.
Oui.
Et alors, sur le YouTube aussi.
Alors, on a créé une chaîne donc YouTube qui est moins virale que Facebook parce que voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire. Et donc, on a créé une chaîne YouTube pour que tout le monde puisse aller visionner toutes les vidéos qu'on avait fait. Pour ces nuits de la lecture.
Et là aussi, c'était mignon parce que
mignon,
les auteurs, donc c'est eux qui ont lu des extraits des bouquins des autres et qui ont ouvert les bouquins, ça leur a plu, il y a eu un plaisir à lire les bouquins des copains.
Alors,
c'était chouette.
Ouais. Alors l'idée, c'était d'être donc dans le partage, dans la spontanéité. Dans ça, chacun, mais toi tu vas m'aider, moi je vais te dire, et chacun donc va s'approprier l'histoire de l'autre. Et ça a marché, quoi, parce que
on a fait un buzz.
Et je dirais que sur les 20 vidéos, une vingtaine de vidéos qu'on a fait, elles ont toutes dépassé les plus de 1000 vues. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de 20 et quelques 1000 vues sur l'ensemble donc, du travail qu'on a fait pour Territoire d'écriture sur les nuits de la lecture. Voilà, c'est un travail.
Et là, vous remettez ça bientôt ?
Alors, il y a eu deux choses. Il y a d'abord des choses toutes basiques. Trouver des endroits où faire de ce qu'ils aiment bien faire. Ils aiment bien, ils savent bien faire, les auteurs, les dédicaces.
Discuter avec leurs lecteurs.
Voilà, dans des endroits, ils ne sont pas regardants. Hein, mais l'Intermarché de Courtenay a proposé plusieurs dates avec un accueil. Mais tu verrais ça, un accueil et une mise en scène magnifique.
Alors,
tables bien placées,
Je pense qu'en fait, notre idée, elle a un peu émaillé le territoire en disant effectivement, les livres sont une nourriture donc, intellectuelle qu'il faut savoir accommoder avec les autres nourritures. Et du coup, le directeur donc, d'Intermarché, qui est un super copain, qui l'a dit, mais bien sûr, venez vite, quoi. Et c'est comme ça qu'on atterrit donc, à l'Intermarché de Courtenay, donc chez Ludovic Pandovin. Et on a un accueil formidable, enfin, le café, le croissant, enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Un accueil chaleureux, et du coup, quand il y a comme ça une spirale positive, ben, tout va bien, quoi. On est heureux, tout le monde va bien, et ce sont des petites bulles de bonheur qui font qu'aujourd'hui, le territoire d'écriture donc, est heureux de pouvoir y participer. Voilà,
alors bien. Là, on va lancer une autre dynamique qui est au contact de tous ces auteurs enthousiastes. À votre tour, lancez-vous dans l'écriture. Ça, moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Et donc, on lance gentiment, avec comme parrain, comme jury, ce que vous voulez, comme figure tutélaire, tous ces auteurs, on lance un concours. Moi, j'aime pas ça, un concours.
Alors, c'est pas un concours. C'est pas un concours. Il y a donc le mois de mars, il va y avoir par l'État français, hein, donc, par le ministère de la Culture,
le printemps des poètes.
Et nous, on a dit le printemps des poètes, donc avec une thématique, avec donc des règlements qui nous dépassent un petit peu, parce qu'on veut surtout pas être donc dans ces ajustements entre amis. Nous, on a dit, ça doit être pour tout le monde. Et du coup, on a dit, on va faire notre propre printemps des poètes et des poésies. et libre à tout le monde d'écrire, parce qu'aujourd'hui la langue française elle est belle et elle a besoin d'être exprimée. Elle est donc on doit exprimer à 10 ans, comme à 15 ans, comme à 60 ans, à 80 ans. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt c'est que chacun s'approprie un petit peu donc ces messages. Et qu'on ait plein de monde qui nous envoie donc des poèmes.
Mais pas grand-chose, hein. Ça peut être un haïku, voilà. Ça peut être quelques lignes, ou alors ça peut être une page.
Ce qui leur fait plaisir, en fait.
Voilà. Et ce qu'on en fera, bah, ça sera pareil, ça sera des captations vidéo, ça sera peut-être d'autres trucs. On a une... parmi nous, on a une poétesse absolue, hein, qui s'appelle Nathalie Romanès. Et le livre, il est là. Et Nathalie, elle me dit, on va faire... des arbres à papillons, des envolées de papillons, tu sais, avec des phrases, toutes les phrases poétiques, en prose d'ailleurs, en prose ou pas, hein, qu'on nous enverra, eh bien, se retrouvant sur des petits papillons qu'on voudra mettre partout dans le Montargois, pourquoi pas. Voilà, ça sera un acte poétique qui sera bon.
Voilà, donc d'accord. On veut simplement accompagner le printemps des poètes, tout simplement. Parce que je pense que c'est important pour les gens de pouvoir s'exprimer aujourd'hui. Et c'est ce qui nous reste, en fait. Hein.
Et puis alors, on dit deux mots de notre dernier venu, coopté.
Oui, alors ça, c'était le départ. Mais bien sûr, plein de monde nous ont demandé, mais comment on fait pour adhérer donc, à votre collectif? Eh bien, nous, on est vers tout le monde, bien sûr, au contraire. Et on est là pour partager les expériences. Et au contraire, au-delà donc, de romans, on a également... donc une relation d'entraide en disant voilà, mais quoi, toi tu es édité par qui, moi comment je fais et comment ça se passe, comment on écrit. Donc nous on a des auteurs qui ont des ateliers d'écriture qui partagent leur amour de l'écrit et c'est ce qu'on aimerait faire quoi, hein. Donc faire plein de petites rencontres comme ça avec tout le monde pour parler de ce qui nous intéresse, bien sûr, ce qui veut dire
voilà. Et donc bienvenue à Saïd Ourad qui vient
quand on va entendre l'interview dans l'émission.
Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Est un écrivain de Chalette.
De Chalette.
Voilà, moi j'ai énormément aimé son
livre. Et bien sûr, son livre nous interpelle parce qu'une résidence inachevée, pourquoi inachevée? La résidence, elle est toujours inachevée. Donc, c'est une bonne question. Voilà. C'est un bon débat pour monsieur Ourad, je ne trouve.
Donc, on a hâte, évidemment, comme tout le monde, comme tous les Français, de pouvoir se réunir avec tous ces auteurs et quelques-uns dans des lieux qui nous inspirent, dans des lieux surprenants, dans des lieux vraiment très charmants ou pas, lieux de patrimoine, etc. C'est ce qu'on rêve de faire au fil du temps.
Peut-être sur les ondes de C2L aussi, on va trouver des petites choses.
Ça serait trop mignon.
Pourquoi pas,
hein, ça serait trop gentil.
Ouais, parce que évidemment, écrire, c'est lire, et lire, c'est en même temps donc partager sur les ondes, bien sûr, c'est important. Quoi.
Bah, je pense que de toute façon, dans les prochaines émissions, il n'est pas improbable qu'on ne retrouve pas certaines interviews des auteurs qui font partie du collectif.
Ça sera super.
Il y en a qui ont l'habitude.
Voilà. Donc, on rappelle le collectif.
Territoire d'écriture. C'est turbulent, c'est riche, c'est foisonnant, c'est
et
plein d'amitié.
Et on retrouve donc
chez Alphonse Do, c'est au Donjon, à Château-Renard.
Et puis sur Facebook.
Facebook, Territoire d'écriture. Et on a l'adresse mail, c'est territoiredécriture@gmail.com.
Et on est quand même soutenu par notre communauté commune et par notre médiathèque Pas à Page. Et ça, on y tient, parce que c'est bien qu'une institution s'intéresse à une initiative citoyenne, c'est très bien.
Et il nous accompagne d'ailleurs donc dans le projet donc du printemps des poètes.
Voilà. Donc on va entendre parler de vous très bientôt.
Oui, de partout, dans les collèges, dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD et dans les MJC, enfin partout quoi. D'accord. Donc dès qu'on parle, on parle du territoire d'écriture.
Merci Alphonse Do et Sandrine Manteau, territoire d'écriture.
Mais merci à vous.
Entre Loire et Loin.
Merci à vous.
Merci Alphonse et Sandrine, entre Loire et Loin. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure sur ces deux ailes pour écouter François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, qui nous parlera de la marque de territoire C'est au Centre.
Plus proche de vous,
C2L Radio.
C2L, la radio de l'Est du Loiret.
C2L Radio, depuis Chalette,
entre Loire et Loing.
Les produits régionaux ont maintenant leur marque. À l'instar d'autres territoires, le Centre Val-de-Loire et son agence de développement DevUp ont lancé la marque régionale C du Centre à destination des produits alimentaires locaux. Les produits sélectionnés bénéficient donc maintenant d'un logo, gage de confiance pour les consommateurs. Culture de fabrication régionale, composition, empreinte écologique réduite, le cahier des charges est exigeant pour C du Centre. François Bonneau, le président de la région Centre Val-de-Loire.
Le bien manger. Le bien manger en Centre Val-de-Loire, c'est quelque chose qui m'a complètement captivé. Pourquoi ? Ben d'abord, vous savez, on est toujours héritier d'une histoire quand on habite un territoire. Nous, les habitants de Centre Val-de-Loire, de cette belle région recouvre le Cher, l'Indre, le Loiret, nous y sommes, le Loiret-Cher avec Blois, l'Indre-et-Loire avec Tours, l'Eure-et-Loire avec Chartres. Cet espace de la région Centre Val-de-Loire, il a un nom dans l'histoire. C'est le Jardin de la France. C'est le Jardin de la France. C'est là que, dans les siècles passés, les gens considéraient qu'on pouvait développer le maraîchage sur les bords de la Loire, sur des terres fertiles, etc., mieux que partout ailleurs, le Jardin de la France. Et nous avons gardé cette tradition. Nous avons gardé ce savoir-faire. Nous avons aujourd'hui des éleveurs. Nous avons des maraîchers, nous avons des horticulteurs, pépinières fruitières, etc., qui font un excellent boulot. Et nous avons des artisans qui transforment ces produits. Et nous avons des artisans qui transforment ces produits. Alors tout ça, ça constitue un ensemble très important de produits. Très important de produits et de producteurs. Et nous leur avons proposé d'avoir la fierté de ce qu'ils font. Nous leur avons proposé d'avoir une marque. C'est du Centre. C'est du Centre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, vous allez voir sur beaucoup de produits et de plus en plus de produits, vous allez voir une marque apparaître, qui est une marque aux couleurs de la région. Les couleurs de la région, c'est le bleu de la Loire, c'est le blond, le jaune des champs de blé, c'est le vert de nos forêts, de nos prairies. Aux couleurs de la région Centre-Val-de-Loire, on va avoir cette marque. Cette marque, elle dira quoi ? Mais elle dira que le produit qu'on achète, il est essentiellement produit en Centre-Val-de-Loire. Que c'est des matières premières du Centre Val-de-Loire. Et ça, c'est un sacré geste vers nos agriculteurs, nos producteurs, quand ils font un produit de qualité. On va prioriser l'achat parce que c'est une manière de leur donner la possibilité de vivre de leur travail. Et puis, au-delà de ça, ce seront des produits sans additifs. Sans additifs de synthèse. Et ça, c'est quand même important. Aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent manger sain, des choses bonnes et saines. Ils ne veulent pas avoir de plus en plus de chimie dans leur assiette. Là, il y aura une garantie. Et puis, en achetant un produit, c'est du Centre, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va également acheter un produit qui a été produit de base par un agriculteur, transformé par un artisan, qui font attention à l'impact environnemental de leur travail. Produire différemment, utiliser des matières de base qui sont ici, ne pas avoir d'intrants dans les produits, le bien manger, la santé, et c'est une sacrée fierté. Actuellement, on a lancé ça il y a quelques jours, on a déjà 70 producteurs qui disent on en est, on prend la marque. On a déjà plus de 600 produits, 700 produits qui sont répertoriés. Et ça va aller véritablement. On a l'objectif de 10, 12 000 produits avec l'étiquette C'est du Centre. Quand vous allez aller sur le marché, quand vous allez aller à la ferme pour prendre vos produits, quand vous allez aller dans votre petite surface ou votre moyenne surface ou votre grande surface, vous allez voir les produits C'est du Centre. En les achetant, vous achèterez des produits de qualité, vous aiderez les producteurs locaux et vous travaillerez pour l'environnement. Et puis c'est une fierté. C'est une fierté aussi par rapport au tourisme. Ici, qu'est-ce que l'on fait ? Ben, on vient, les gens qui viennent voir notre belle région, ils viennent parce que la Loire est magnifique, parce qu'on a de beaux PNR, parce qu'on a de jolies villes, parce qu'on a de belles cathédrales, parce qu'on a de magnifiques châteaux, jardins, parcs. En même temps, on aime bien quand même, quand on fait du tourisme, s'arrêter à une bonne table, acheter des produits locaux, etc. Désormais, on aura les produits C'est du Centre. Et c'est aussi une belle fierté et un bon moteur pour le tourisme.
Et donc, à l'heure actuelle, près de 740 produits sont déjà référencés, ainsi qu'une soixantaine de producteurs à travers les 6 départements de la région Centre-Val-de-Loire. Et cela augmente rapidement chaque semaine, fait savoir François Bonneau.
François Bonneau, entre Loire et Loin, pour la marque C'est au Centre. Nous allons faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour aller à la rencontre de Guillaume et Hyacinthe qui préparent activement la réouverture de la cueillette à la ferme maraîchère urbaine de Chalette, de la Fourche à la Fourchette. A tout à l'heure sur ces deux ailes.
C'est de Zelle Radio.
C'est de Zelle, plus près de chez vous.
Merci d'écouter Entre Loire et Loin sur les ondes de C2L. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter toutes ces interviews à la fois en podcast sur le site c2l-radio.fr, mais aussi sur la page Facebook et YouTube de l'émission, où vous retrouverez ces interviews en vidéo ainsi que plein de compléments d'informations. On est allé faire un petit tour aussi du côté de la ferme maraîchère urbaine La Cueillette à Chalette, à la rencontre de Guillaume et Hyacinthe, qui préparent activement la réouverture prochaine de la fourche à la fourchette.
Bon, la ferme maraîchère est fermée au public depuis un certain temps, réouverture dans quelques semaines, très bientôt. Mais on voit qu'à la ferme maraîchère, ça ne s'arrête pas. Il se passe quoi là cet après-midi ?
Et bien justement, on profite de la fermeture à la clientèle pour faire les grands travaux qu'on avait prévus cet hiver. Et donc on a l'installation des chambres climatiques qui serviront à stocker les produits frais, les fruits et légumes, les endives et les champignons, la production de champignons notamment. Et
on a production 100% locale ?
Production 100% locale à la ferme. Et du coup voilà, c'est ce que les clients nous demandaient, on l'a fait et on n'en est pas peu fiers parce que c'était pas gagné au début, mais on est dans les temps par rapport aux 50 projets qui sont prévus depuis 2 ans et demi maintenant.
Donc ça va être la grosse nouveauté, ça, ces chambres froides pour cette année à la ferme maraîchère.
Oui, c'est la grosse nouveauté en plus de la parcelle d'un hectare supplémentaire qui ouvre à La Cueillette. Donc, et l'extension du parking, puisque la surface est triplée, on avait souvent des problèmes et ça bouchonnait un peu dans les rues adjacentes à la ferme quand il y avait du monde qui venait à La Cueillette. Donc cette fois-ci, on devrait pouvoir les accueillir convenablement, on espère en plus bientôt sans le Covid, et avec du coup les champignons produits à la ferme.
Vous disiez combien la surface déjà ?
Alors la surface, là, on atteint petit à petit les 2,5 hectares, 3 hectares. Et à terme, ce sera 4,5 hectares, presque 5 hectares. Et ça, ce sera dans 2 ans quand les travaux seront terminés, puisque les travaux ne seront pas finis cette année encore.
Et pour cette année, le supplément, on y verra quoi ?
Alors on y verra, donc on l'a dit, les champignons. On a déjà eu les endives qu'on avait pas mal cette année, parce que contrairement à l'année dernière, on en aura non seulement en hiver, mais aussi au printemps. Donc on va étaler la saison de l'endive. On aura tout un tas de nouveautés dans les variétés qu'on va faire. On a notamment du basilic qui sentira le réglisse, du basilic qui sentira aussi le chocolat, des basilics un peu particuliers parce que ça, c'est un peu notre fer de lance d'avoir des spécificités dans les variétés, des variétés anciennes et qui ont du goût parce que c'est ce qu'on veut avant tout. Et après, on a commencé aussi à travailler un peu plus avec les grainothèques. On avait déjà travaillé avant et là, on les alimente vraiment. Donc cette année, on retrouvera les semences issues de la ferme dans les grainothèques de la médiathèque d'Amilly et des incroyables comestibles à Dordive. Donc ça, c'est un gros challenge qui nous plaît. Et on fait aussi l'acquisition, en plus de tout ça, de bâtiments en dur à côté de la ferme pour faire nos bureaux et nos salles de pause pour les salariés.
Oui, on voit, ça ne cesse de s'agrandir chaque année, aussi bien donc en matériel, en superficie et en personnel.
Exactement, tout à fait, puisqu'on a nos deux premiers apprentis cette année. Ils seront bientôt rejoints par une personne en CDI. On a ma femme et moi sur l'exploitation. Donc ça fait déjà beaucoup de monde pour seulement 2 ans et demi d'existence. Et évidemment, on embauchera dans les mois à venir. On le fera savoir en temps voulu. On dit bien aux personnes, ne nous envoyez pas vos CV ou la démotivation. Pour l'instant, on a déjà du monde sur file d'attente. Mais voilà, en tout cas, ce qui est prévu, c'est de créer de l'emploi au niveau local, voire d'embaucher des saisonniers parmi les jeunes étudiants sur le territoire.
La ferme maraîchère, donc, comme on l'a dit tout à l'heure avec Guillaume, c'est fermeture en ce moment, c'est vacances, c'est pas vraiment des vacances, mais on peut déjà parler d'ouverture, c'est prévu pour quand ?
Eh oui, ça y est, les vacances, c'est déjà fini. On a repris à plein temps, là, du coup, pour refaire les travaux. Et du coup, la réouverture est prévue donc, le 13 mars, donc c'est un samedi. Les horaires d'ouverture, ce seront comme d'habitude, donc 10h, 18h pour le samedi. Et le mercredi, on est à 14h, 18h30. On va repasser à 18h parce qu'avec le couvre-feu, du coup, on repassera à 18h. Voilà, donc le mercredi et le samedi toute la journée.
Et dans un premier temps, le public, il pourra trouver quoi exactement ici ?
Alors, donc on a une partie de l'année où la cueillette est fermée, donc il y a pas la partie cueillette n'est pas ouverte. En revanche, dans les tini, vous retrouverez du coup donc, tous les fruits et légumes de saison, notamment les endives qui sont prêtes. Il y en aura une deuxième série, comme l'a dit Guillaume, au printemps. Et puis ensuite, tous les produits de saison, patates, carottes, poireaux aussi. Parce que même s'il fait beau, bah, c'est pas encore la fin de l'hiver.
Et puis dans les petites cabanes ?
Et donc, du coup, dans la deuxième, tout ce qui est épicerie, il va y avoir donc du coup des nouveautés. On ne va pas trop en dire aujourd'hui. Vous allez avoir voilà, de l'aménagement qui a été refait avec des produits emballés en bio en plus et toute une partie vrac en frais qui va arriver aussi courant mars-avril.
Voilà, donc on ne peut qu'inviter les usagers, le public, tout le monde à venir donc à compter du 13 mars.
C'est ça, tout à fait.
la ferme maraîchère urbaine de Chalette, de la Fourche à la Fourchette, c'est rue Lamy à Chalette, et ça ouvre donc le 13 mars. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec Saïd Ourad, qui a sorti il y a quelques mois son premier roman « Résilience inachevée ». Il est interviewé par Sandrine Manteau, mais ça sera juste après la pause.
Chevrolet, take me down to San Jose. Chevrolet, take me down to San Jose. Two. I fill you up with lead and fuel. I fill your tires with air. It just isn't fair that you keep treating me so cruel. Chevrolet, take me down to San Jose. I gotta have some loving, so please get me on the way. Tool. I filled you up with lead and fuel. I filled your charge with air. It just isn't fair that you keep treating me so cruel.
Merci d'écouter C2L Radio, entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais. On écoute tout de suite l'interview de Saïd Ourad, un auteur montargois qui a sorti il y a quelques mois son premier roman, Résilience inachevée. Il est interviewé par Sandrine Manteau.
Semblable à un zombie en déroute, Céline quitte la douche, le corps complètement engourdi par une douleur lancinante. Une sortie de bain sur le corps, elle se déplace à petits pas et se réfugie dans un coin du canapé. Il lui semble atterrir dans un monde parallèle, celui que les humains n'habitent pas. Elle se sent flotter et n'entend aucun son, mais la douleur lancinante la rappelle à la réalité, celle d'avoir fait une crise de lavage. Elle n'avait pas subi une crise de cette ampleur depuis plusieurs mois. La toute dernière remontait à l'écriture de certaines scènes de son film. Par contre, régulièrement et plusieurs fois dans la journée, Céline prend des douches. Parfois, elle se réveille en pleine nuit avec le sentiment d'être souillée et ne peut se rendormir qu'après avoir laissé couler de l'eau sur son corps. Céline passe le restant de la journée à récupérer de cette grosse crise. Un regard dans sa boîte à pharmacie lui fait comprendre qu'elle devra impérativement s'approvisionner de nouveau en médicaments antidouleurs. Elle ingurgite 2 gélules de paracétamol codéinées sur le point d'arriver à leur date de péremption. Progressivement, les douleurs de son bas-ventre s'estompent et laissent place à une gêne légère. Allongée sur son canapé, exténuée, elle se recroqueville sur elle-même et sombre dans un profond sommeil. Au réveil, elle pense profondément à ce rêve récurrent, le même qui hante souvent ses nuits depuis plusieurs années. Elle se retrouve seule dans une grotte entourée d'animaux sauvages. Depuis peu, ce rêve ne la réveille plus en sursaut. Pour la énième fois, Céline se demande si son sauveur n'était pas sa patience, car une longue attente finissait par faire fuir les animaux. Personne n'est jamais venu à son secours. Voilà, ça c'est un court extrait de ton roman, Saïd Ourad. Bonjour.
Exact, bonjour.
Voilà, ce roman c'est Résilience inachevée. Alors, on a choisi ensemble cet extrait parce qu'il me semblait, moi, contenir en fait deux pistes concernant le livre, l'intrigue, concernant l'héroïne de ce livre, Céline. Tout d'abord, une femme douloureuse, fragile, qui est en proie à des démons.
Exact, ouais.
Qui laisse des traces physiques sur son corps.
Oui, effectivement.
Et puis, d'un autre côté, on apprend une chose aussi. Elle travaille dans le cinéma et on apprend très vite qu'elle est réalisatrice. Voilà.
Ouais.
Alors, et puis en même temps, Saïd, ce passage nous parle de toi. Écrivain, certes, c'est un premier roman, c'est ça ?
Écrivain, bon.
En tout cas, tu écris depuis toujours ?
Oui, enfin oui, on peut dire ça comme ça. J'ai toujours écrit un petit peu, c'est plus des petites chroniques, des petits billets, etc. Je me suis déjà essayé une fois, c'était en 2007, je pense, 2007-2008. J'ai écrit un roman, je l'ai fini, et puis après, je me suis dit, non mais c'est nul, je peux pas avoir... Non mais ça, voilà. Donc je l'ai mis au placard, et puis après, donc il y avait des choses qui cogitaient un petit peu qui bouillonnaient un petit peu dans ma tête. Et puis, donc là, ce roman, je l'ai commencé en 2017. Je me suis dit, cette fois-ci, il faut que j'aille jusqu'au bout.
D'accord, alors il y a l'écriture, mais parallèlement à ça... Ton métier, il est tout autre.
Mon métier, il est tout autre, oui, effectivement.
Donc, psychiatre.
Voilà, je suis psychiatre, je suis aussi addictologue, donc je m'occupe de la toxicomanie en général. Et mon métier aussi, effectivement, me fait, en quelque sorte, rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent éventuellement de pathologies, bien sûr, psychiatriques, des fois qui sont en relation, bien sûr, avec l'inceste, le viol, etc.
Parce qu'on parle de ça. Céline, en fait... a été victime d'inceste.
Et elle a été victime d'inceste, voilà. D'inceste ou de viol, on ne sait pas trop, parce que le beau-père, on ne sait pas trop si c'est son beau-père ou c'est plutôt le copain ou l'ami à sa maman, etc. Mais voilà, on peut parler quand même d'inceste, plutôt.
D'accord. Et donc, tout ce que tu nous décris là-dedans, ce que tu appelles, moi ça m'a interpellé, les crises de lavage, ça c'est des choses qu'on connaît, en fait, en psychiatrie.
Oui, bien sûr, oui, ça c'est des choses... parce que, si vous voulez, quand on subit un traumatisme de ce genre, que ce soit ce qu'on appelle un psychotraumatisme, c'est-à-dire un traumatisme du psychisme, c'est-à-dire ça dépend comment on pourra réagir, parce que la plupart des gens ne réagissent pas, enfin il n'y a pas de séquelles, on va dire ça comme ça, mais beaucoup de gens quand même gardent les séquelles qui peuvent s'exprimer soit par un comportement psychologique un peu particulier ou par des pathologies carrément somatiques, c'est-à-dire telles que des douleurs, telles que des problèmes gastriques, ça peut être ça peut être vraiment une panel d'expressions pathologiques vraiment très diverses.
Et alors toi, tu as choisi de faire travailler ton héroïne, de la faire s'exprimer dans le monde du cinéma, parce que c'est un monde qui t'intéresse beaucoup.
Oui, c'est un monde qui m'a toujours intéressé un petit peu, oui, c'est un monde... le monde du cinéma, parce que c'est un monde, le monde du cinéma, ce qui m'intéresse, et de l'écriture, bien sûr, c'est plutôt la pâte à modeler, c'est-à-dire on prend une pâte à modeler, on fabrique ce qu'on a envie de fabriquer. Ce qui a intéressé aussi probablement Céline, c'est pour ça qu'elle est peut-être, enfin on peut supposer que peut-être c'est pour ça qu'elle a versé dans le cinéma, parce qu'elle voulait peut-être transformer un petit peu sa réalité en fiction, Mais, j'allais dire presque, malheureusement, la réalité, on ne peut pas la transformer. Par contre, la fiction, on peut la transformer, on peut en faire ce qu'on veut.
D'accord. Toi, tu as fait une école de cinéma?
Pas une école de cinéma, c'est une petite formation de cinéma.
Une petite formation, voilà, une mais tu as hésité à un moment donné à
oui,
prendre
oui,
ce
chemin-là. Oui, c'était plus, j'allais dire, une petite folie, comme on dit. Quoi. Enfin, mais bon, on ne peut pas faire une école de cinéma, j'avais quand même 30, 2007, j'avais déjà...
C'était une crise d'adolescence tardive.
On peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Comme disait l'adage, l'adolescence, ce qui est difficile dans l'adolescence, c'est les 40 premières années.
Ah, c'est bien, c'est donc, beau. Voilà. Et puis quand même, tu fais un peu de cinéma, donc avec les amis montargois.
Mm-hmm. Oui, on en a fait avec Pascal, JP, voilà. Qui sont là.
Pendant ces 42 heures, c'est ça?
Oui, oui, ça
nous
amuse
beaucoup.
Il y en
a 42, c'est ça?
42 heures pour un cours, oui, c'est ça. C'est pas mal parce qu'on arrive quand même à se voir, on va dire, un long week-end.
Et tu participes au scénario, c'est ça?
Ah oui, j'ai participé plusieurs fois. J'ai participé plutôt avec mes enfants. J'ai fait participer toute la famille, les amis, les copains des fois. Donc voilà, on passe...
Alors on va revenir évidemment au livre, mm-hmm. « Résilience inachevée ». Alors, il est intéressant dans sa structure, ce livre, mmh. puisqu'on passe donc de la réalité de ce que vit Céline au quotidien à son film. Mmh. On a vraiment... on change de typo pour passer de l'un à l'autre, pour bien comprendre. On a à peu près le premier quart, on parle de Céline. Mmh. Ensuite, elle présente son film, on le voit à l'écran. Donc nous, on le voit dans le livre. Noir sur blanc,
oui,
et après on revient sur Céline.
Oui, c'est ça, exact. Oui, j'ai essayé de jouer un petit peu sur les deux tableaux, effectivement, on va dire le cinéma et la réalité. Donc, comme d'habitude, c'est les deux tableaux, fiction, réalité. Et puis à un certain moment, bon, la fiction et la réalité se rejoignent,
oui.
Mais à un certain moment, ils sont obligés de se séparer un petit peu.
Bah, tu nous résumes ce que tu veux de l'histoire, comme ça, c'est va pas trop loin quand même.
Céline qui a baigné aussi, enfin, depuis l'âge de très très jeune quand même, elle a baigné un petit peu dans les cinémas parce que elle a eu la chance de côtoyer de près les gens, enfin, les gens qui l'ont aidé quand même à acquérir un savoir, etc. Et puis elle a fini par décider de réaliser son propre film. D'ailleurs, c'est un moment un peu particulier, je ne sais pas si je vais dire ça ici ou non, un moment où il y avait une rupture avec son ami très proche. Donc c'est à ce moment-là qu'elle décide de réaliser son film.
Et c'est une réussite.
Et c'est une réussite. Donc elle a réalisé un film autobiographique en partie, on va dire 80% du film.
Elle le dit ou pas au public?
Elle
ne
le dit pas, non,
elle ne le dit pas.
Non, elle ne le dit pas parce qu'elle le garde, parce que bon, après, comme d'habitude, au niveau des médias, si on le dit, enfin, on imagine un petit peu que c'est toujours un peu difficile après d'assumer un petit peu toute la suite, la curiosité, les gens vont vous poser des questions, ils vont fouiller, ils vont, voilà.
Mais bon, elle devient le porte-parole, en fait, de toutes ces femmes qui ont subi l'inceste.
Oui. Effectivement. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, je vous apprends rien, le cinéma, quand même, ça, très souvent, ça parle de bien sûr, des choses réelles, mais en même temps, ça peut nous parler aussi, c'est-à-dire, le cinéma, c'est plutôt il se base sur l'imaginaire, enfin sur notre imaginaire, et bien sûr qu'on transpose un petit peu dans une réalité peut-être, mmh. Voilà, qu'on vit. Donc, elle, c'était quoi ta question, pardon?
Le fait est que elle devient le porte-parole,
ah oui.
Donc
voilà.
de femmes, mmh. qui ont subi l'inceste, mmh. Mais d'une façon étonnante, c'est que son héroïne, l'héroïne de son film, pardonne à son bourreau, mmh. Alors que elle, Céline, dans la vraie vie, ne rêve que de vengeance, ou pas?
Non, elle ne rêvait pas de vengeance, mais plutôt la vengeance est venue après.
D'accord, un peu la plus vengeance tard, vient
c'est,
après.
C'est-à-dire, c'est quand... quand le film est sorti, à force de le voir, à force de rencontrer d'autres personnes, en quelque sorte, ce film a fini par l'interroger, en quelque sorte. Mmh. Et donc, ça a réveillé peut-être quelque chose en elle. Et donc, c'est pour ça qu'elle voulait vraiment aller au-delà de ce qu'elle avait pensé jusqu'à maintenant. Voilà.
Céline, elle existe ?
Non, je ne pense pas qu'elle existe. Oui, il y a des Céline, mais celle-ci, je ne pense pas qu'elle existe. Non.
En tant que psychiatre, tu n'as pas rencontré de Céline ou tu as rencontré...
Non,
c'est une mosaïque de personnes que tu
as rencontrées. Voilà, mais il n'y a pas une personne vraiment comme ça, toute désignée. Effectivement, toutes ces idées, bien sûr, c'est des choses que j'ai glanées un petit peu pendant mes consultations, mais ce personnage n'existe pas.
Mais pourquoi avoir choisi ce thème de l'inceste? Alors, tu me disais que ce n'était pas du tout lié à l'actualité, puisque tu l'as écrit il y a déjà quelques...
Oui, bon, c'était...
L'actualité immédiate, mais on baigne quand même là-dedans depuis
C'était une idée que j'avais quand j'étais, enfin, j'ai commencé mes études de psychiatrie. Donc c'était ma première chef de service qui m'a parlé de ça, de cette entre guillemets ce que j'appelle moi des crises de lavage, mais ce qu'on appelle des TOC en psychiatrie. Et donc c'est resté dans la tête. Et puis c'était en 2017, j'ai décrit une petite fille comme ça qui est adossée à l'entrée de sa maison, peureuse, etc. Donc j'ai mis comme ça deux, trois phrases. Et puis après, ça c'était sur Facebook. Et puis j'avais un cousin qui m'a répondu en me disant « ta description est superbe », etc. Donc je me suis dit allez ». Donc on va partir de là. Et puis après, donc, j'ai essayé de construire une histoire à travers cette première image. C'est-à-dire, j'ai imaginé après la petite jeune fille, probablement pourquoi elle était peureuse. Enfin, elle était peureuse. Pourquoi ? Parce qu'elle avait subi des choses, etc. Donc j'ai construit petit à petit toute l'histoire.
Mais donc, toi, tu es spécialisée en addictologie ? Mais tu ne voulais pas rentrer dans ce domaine-là plus... Tu n'avais pas envie de construire une fiction plutôt dans le domaine de la toxicomanie, etc.
Non, pas spécialement. Si, il y a quand même un peu d'addictologie à l'intérieur. Céline, elle est consommatrice quand même de shit. C'est l'une d'ailleurs des conséquences d'un viol ou d'inceste. On peut se retrouver, bien sûr, avec une consommation soit d'alcool, soit de drogue en général, soit un comportement à risque, ce qu'on appelle des comportements à risque. Il y a beaucoup de prostitution, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent bien sûr dans des situations où ils se font violer encore une deuxième, une troisième, une cinquième fois, une dixième fois, etc. Donc voilà, il y a quand même un peu d'addictologie à l'intérieur. Mmh. Mais l'addictologie, ce n'est pas une spécialité toute seule, c'est une petite spécialité que tous les médecins peuvent faire.
D'accord.
Donc par contre, la psychiatrie, c'est une spécialité.
Alors, c'est une fin en suspens. Mm-hmm. C'est une fin qu'on... Alors, ça pourrait être le début d'un deuxième tome.
Non, enfin, j'y ai pensé, mais bon, pour l'instant, non. Peut-être, oui.
Et puis donc, le jeu, tu disais, c'était tout simplement que le lecteur poursuive tout seul l'histoire.
Oui, je pense que c'est ça, oui, hein? Effectivement, oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, moi, j'ai toujours aimé les romans qui me donnent pas toutes les... la fin de l'histoire ou toutes les clés pour la fin. Donc, moi, j'ai toujours aimé les romans qui me font réfléchir à la fin, quoi. Enfin, comme, comme je te disais tout à l'heure, moi ça ne m'intéresse pas, voilà, un inspecteur de police qui cherche à tuer le voleur, et puis à la fin il lui tire dans le dos. Moi ce qui m'intéresserait, c'est plutôt quand il arrive devant lui, bah, plutôt il ne va pas lui tirer dessus, il va se retenir pour le faire, et peut-être que l'autre va profiter pour lui tirer dessus. Ça m'intéresse, parce que ça, voilà, ça, c'est une fin plutôt, c'est une situation à laquelle on s'attend pas vraiment. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Tu as un prochain synopsis?
Peut-être, je sais pas, j'y réfléchirai, oui. Je vais voir.
Saïd, merci.
Merci beaucoup, Sandrine.
Donc, on a discuté autour de ce roman, Résilience inachevée, édition Sidney Laurent. Alors, j'ai lu, en retournant le livre, que l'image de couverture, c'est ton œuvre.
Non, c'est mon fils.
C'est le fils.
C'est mon fils, Samy, qui a 16 ans, qui l'a faite.
Alors, ils se sont trompés. Hein.
Voilà, exactement. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient mettre le nom de celui qui a fait la couverture.
Donc c'est bon, Samy Ourad.
C'est Samy Ourad, c'est mon fils.
C'est le fils qui a fait ça pour son papa.
Voilà, je voulais l'associer. Parce que bon...
C'est un très bel objet en plus.
Ah ben merci, c'est gentil.
Merci beaucoup.
Merci Sandrine.
Merci Sandrine, merci Saïd pour ces quelques mots autour de cet ouvrage Résilience inachevée que vous allez pouvoir trouver dans toutes les librairies de Montargis. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour interroger les femmes solidaires du Montargois qui préparent quelque chose à l'occasion du 8 mars, de la Journée internationale pour les droits des femmes. C'est après la pause.
C2L Radio.
www.c2l-radio.fr.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Je rêve. Oh, dites-le-moi doucement. Murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur, et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Dans le soir qui penche, la pince au poilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur, vos cris me dérangent, je rêve. Je rêve. Venez donc me parler d'amour à voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la pince au poilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
Merci de nous écouter sur C2L Radio, entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais. Nous allons écouter tout de suite Toinette et Annick, les femmes solidaires du Montargois, qui préparent quelque chose à Montargis à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale pour les droits des femmes. Beaucoup de choses donc cette semaine, beaucoup de choses à dire sur les droits des femmes. Toinette et Annick, au micro de Patrice Avzar.
Le 8 mars prochain, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. À cette occasion, pour parler de ce rendez-vous, j'ai à mes côtés Antoinette Maillet et Annie Criffaut. Vous êtes coprésidente du comité Femmes solidaires du Montarrois. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, avant de parler des rendez-vous, vous allez proposer à cette occasion, nous rappeler un petit peu ce qu'est Femmes solidaires.
Donc Femmes solidaires, c'est une association qui a vu le jour en 1945. Ce sont des femmes déportées, résistantes, qui ont effectivement fondé ce mouvement. Et déjà, elles réclamaient en 1945 à travail égal, salaire égal. Et en 1998... Femmes solidaires, l'Union des femmes françaises, pardon, est devenue Femmes solidaires. Donc c'est une association, un mouvement féministe, laïque, d'éducation populaire, qui milite pour les droits des femmes et pour l'égalité femmes-hommes.
Je préciserai que nous sommes universalistes parce que nous estimons que les droits qui sont acquis quelque part dans le monde doivent être les mêmes pour toutes les femmes à l'international.
Et c'est donc à quel moment que ce comité est né sur le Montargois ?
Le comité naît à Chalette en 1996. Et depuis quelques années, c'est le comité local du Montargois. Et il est composé d'une soixantaine d'adhérentes qui sont toutes bénévoles.
Les actions de Femmes solidaires du comité, c'est quoi ?
Alors, les actions se déclinent en plusieurs axes. Bon, c'est d'abord les interventions de prévention dans le milieu scolaire, parce que nous pensons que si on veut faire évoluer la société, c'est très tôt au niveau pédagogique, éducatif, qu'il faut prendre les choses en main. Voilà, donc on intervient actuellement dans des collèges et des lycées. Il faut dire que ce mouvement, cette action est un peu ralentie du fait du confinement. En 2020, on est intervenu en début d'année au lycée Benjamin Franklin à Orléans. Et en fin d'année, au collège de Ferrières, au mois de décembre. Nous sommes agréés par l'éducation nationale pour intervenir dans le milieu scolaire. Nous pensons prochainement finir de préparer une mallette pédagogique pour intervenir le plus tôt possible auprès des jeunes, dès la maternelle, donc en milieu primaire. Voilà, donc ça c'est une première chose, c'est la prévention. Ensuite, il y a l'intervention auprès d'un large public pour pouvoir faire évoluer les mentalités, casser les stéréotypes liés au genre. Habituellement, on intervient à travers des débats au niveau du suite à un film ou au cinéma. Ce que l'on a fait en 2020, on a juste eu le temps de le faire en 2020, le 8 mars 2020. Et on intervient également dans les fêtes locales où on a un stand à la fête de Chalette et à la fête de l'Europe à Amilly. Ça, c'est une autre partie de nos interventions. Et pour terminer, donc, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Concrètement, on accueille, on accompagne et on oriente des femmes victimes de violences vers des structures professionnelles. Voilà. Alors, pour terminer, peut-être, sur cette question des violences faites aux femmes, Femmes solidaires fait partie du collectif LUNA, qui regroupe 5 associations et on travaille entre guillemets en réseau pour que les femmes accèdent le plus facilement possible d'une part au dépôt de plainte, puis ensuite dans leur suivi auprès des assistantes sociales et puis auprès d'autres suivis à la CAF, etc. Voilà.
Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus sur Femmes Solidaires, ça se passe comment ?
On peut consulter le site internet et le Facebook sur le Montargois. Et sinon, il y a le site de Femmes Solidaires nationales. On a oublié de dire que notre comité local faisait partie des 190 comités locaux, puisque Femmes Solidaires, c'est avant tout une association nationale. Donc si on fait femmesolidaires.org, on a tous les renseignements. Et puis on peut aussi consulter notre magazine via le site de femmesolidaires.org, qui est Clara Magazine, qui est le seul journal, on va dire, féministe, qui n'a pas de publicité et que l'on ne peut pas trouver en kiosque. Il est simplement par abonnement. Petite parenthèse, Clara Magazine tire son nom de Clara Zetkin, qui est la femme qui a mis, on va dire, le 8 mars comme fête internationale de lutte pour les droits des femmes.
Justement, pour parler un petit peu de ce 8 mars sur le Montargois, des actions, des opérations prévues ?
Alors, du fait du confinement, on a été amené à restreindre les actions qu'on fait habituellement, qui peuvent être des actions dans les établissements scolaires. Donc, cette année, on a prêté des expositions aux établissements scolaires, et c'est eux, à l'interne, qui animeront donc cette journée du 8 mars. Par contre, le 13 mars, Femmes Solidaires organise une manifestation avec un rendez-vous à 10h place du Paty. Cette manifestation s'organisera autour de trois rassemblements. Un premier, donc, comme je viens de le dire, à 10h place du Paty. Un deuxième à 10h30 place Mirabeau. Et un troisième à 11h. Place de la République, à côté du marché hebdomadaire. Voilà.
Alors, on a prévu une lecture de nos revendications et puis on appelle les copines et copains, entre guillemets, à trouver des textes à lire, des textes courts ou des chansons qui concernent les droits des femmes et qui sont, bien entendu, féministes.
J'ajouterai que notre page Facebook, à partir du 8 mars, sera animée à partir de textes, de chansons que chacun et chacune voudront bien transmettre sur notre page Facebook. Simplement souligner que Monsieur Dor, député, nous recevra en audience le jeudi 11 mars. Pour évoquer avec lui donc trois problèmes nationaux qui nous concernent, c'est à la fois la loi sur l'IVG, la PMA ouverte à toutes et la survie du 3919 qui est le numéro d'urgence gratuit pour les femmes victimes de violences. Et enfin, on évoquera avec lui les problèmes locaux d'hébergement dans l'urgence pour les femmes victimes de violences. Donc c'est aussi ces axes-là que mettront en lumière notre manifestation et les points de rassemblement.
Voilà, donc maintenant on ne peut qu'inviter le public à vous rejoindre. Ce jour-là, c'est un grand rendez-vous. Peut-être pas le seul de l'année, mais enfin, vu la situation sanitaire, c'est un rendez-vous très important. Eh bien mesdames, merci. Et puis donc rendez-vous le 13 mars.
C2L. C2L Radio.
Écoutez, depuis Chalette.
Entre Loire et Loin.
Merci de nous avoir écoutés sur ces deux ailes. C'était Entre Loire et Loin, le magazine du Gâtinais. Une émission que vous pouvez réécouter ou même visionner en vidéo sur le site de la radio, c2l-radio.fr, ainsi que sur les réseaux, sur YouTube, sur la page Facebook de l'émission Entre Loire et Loin. Vous y retrouverez non seulement toutes ces interviews en vidéo, mais également des liens et des infos complémentaires pour en savoir plus sur tous nos invités. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission, Jean-Philippe, Sandrine, Anita, Patrice, JB et moi-même, Pascal. On se retrouve samedi prochain à 10h, toujours sur C2L pour un nouveau numéro. Et en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et n'oubliez pas de porter le masque dès que vous êtes en groupe, afin qu'on puisse enfin venir à bout un de ces jours de ce satané virus qui se transmet par convivialité. Allez, bonne semaine.